Aujourd'hui, on se lance dans une véritable exploration en profondeur d'un document interne qui est, pour le coup, complètement fascinant.
Ah oui, un document vraiment à part, ouais.
C'est un outil issu du programme DIEZ Notoriété Spontanée. Ça s'appelle, très exactement, 2025-07-30, diagnostic pour améliorer vos ventes.pdf. C'est un outil d'auto-évaluation, stratégique et commercial, qui a été créé pour Graines de Performance.
Tout à fait, par un activateur de performance, Olivier Berlinguer, c'est ça.
Voilà. Et c'est intimement lié au club DIEZ Business Liberté et au moment qu'ils appellent les DIEZ Go Flash. Mais pour bien comprendre l'enjeu, pour ceux qui nous écoutent, il faut un peu imaginer un scanner médical.
L'analogie est bonne.
Bah oui, parce que d'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend à un truc froid, clinique, genre on se casse le bras, la radio montre une ligne blanche bien nette et le médecin dit « bah le problème est là ». C'est cassé ou ça ne l'est pas, quoi. C'est super binaire.
Et le truc, c'est que c'est exactement cette mécanique hyper binaire qu'on essaye souvent de forcer dans le monde des affaires. L'esprit humain, bah, il a ce besoin inné de catégoriser pour se rassurer, tu vois.
Ouais, on aime bien quand ça rentre dans des cases.
C'est ça. Sauf qu'appliquer cette logique clinique de cause à effet à un domaine qui est aussi complexe et mouvant que la vente, ben c'est généralement là que tous les systèmes s'effondrent.
Complètement.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ce diagnostic refuse catégoriquement de séparer la froideur des chiffres de la psychologie humaine. C'est vraiment lié.
Comprendre comment ce document structure vraiment, étape par étape, une machine de vente qui soit à la fois performante sur le plan technique, mais aussi, et c'est le plus important, soutenable psychologiquement.
Ouais.
Et ça commence dès la première page, avec l'identité visuelle du doc. C'est assez inattendu, en fait.
Ah oui, le logo, c'est vrai qu'il pose un cadre de T8.
C'est clair. On y voit une mallette d'affaires, super classique, surmontée d'une plante avec des feuilles qui poussent, et le tout est adossé à un graphique avec une flèche qui pointe vers le haut. On a d'un côté la rigueur, le pragmatisme des statistiques, et de l'autre, bah, cette croissance organique, vivante, qui demande du temps.
Et cette métaphore visuelle, elle est clairement pas là par hasard. C'est une vraie déclaration d'intention. L'industrie de la vente aujourd'hui, elle a hyper tendance à glorifier le pragmatisme au détriment du côté organique.
Ouais, les fameux hacks de croissance, quoi.
Exactement. On vend des formules magiques, des scripts d'appel infaillibles, des tunnels de vente parfaits. Or, ce diagnostic, il avance une thèse assez audacieuse. Il dit que, en gros, toute cette ingénierie de la mallette, bah, elle sert strictement à rien si la plante, donc l'individu, et ses croyances n'a pas un terreau sain pour s'enraciner.
Et c'est pour ça que ce fameux scanner commence carrément son analyse par ce qui se passe dans la tête. C'est fou. On pourrait s'attendre à ce qu'un outil sur la pure vente commence en demandant, je sais pas, c'est quoi votre taux de conversion ou la taille de votre mailing list.
Ben oui, c'est ce que font 99% des audits commerciaux.
Mais là, pas du tout. Le postulat de base, ici, c'est que l'action de vente va systématiquement s'effondrer si les fondations psychologiques sont instables. Et il y a une question qui m'a fait l'effet d'un électrochoc. Le document demande cash si l'on se sent pleinement légitime pour accomplir ses missions.
Et le choix de ce mot « légitime », il est vraiment chirurgical. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas juste un petit manque de confiance passager. En fait, c'est une véritable fuite de capitaux pour une boîte.
Une fuite de capitaux, carrément.
Ah, mais totalement. Si, au plus profond de toi, t'as pas la certitude de mériter ta place, ben, chaque interaction commerciale va être parasitée. Et ça se voit. Ça se manifeste par des petites hésitations dans la voix quand t'annonces ton prix ou une tendance à surjustifier tes offres.
Ouais, le fameux moment où on se met à parler super vite après avoir donné le tarif.
Voilà.
Ou alors l'incapacité à relancer un prospect parce qu'on a peur de déranger. Et le prospect, lui, il ne saura pas forcément mettre des mots dessus, mais son cerveau reptilien, il va capter un danger, il va sentir un manque d'alignement.
C'est crucial, ça. On a tous vu des gens hyper compétents rater des ventes face à des concurrents bah, bien moins qualifiés, au fond, juste parce que ces derniers assumaient totalement leur posture.
Exactement. C'est la confiance qui convertit en premier.
Mais le document, il va encore plus loin sur cette posture, et là, j'ai vraiment besoin qu'on s'arrête 2 secondes. Il demande d'évaluer si l'on a, et je cite le texte, « l'humilité de croire que je suis guidée pour que tout produit et service conçu par nous peuvent contribuer à plus de valeur ajoutée pour nos clients.
Honnêtement, utiliser des mots comme « humilité » ou « se sentir guidé », on frôle un peu la pensée magique, là, non? On est censé parler de performance commerciale et on se retrouve avec des concepts dignes d'une retraite spirituelle dans le désert. C'est pas une distraction, ça?
Bah, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est l'erreur classique que font la plupart des stratèges. Ils veulent à tout prix séparer l'état d'esprit des mathématiques. Mais c'est absolument pas de la pensée magique, c'est un recadrage cognitif massif.
Un recadrage, c'est-à-dire?
Dans la vente traditionnelle, c'est l'ego qui conduit la voiture. Le vendeur, il cherche à convaincre, à dominer l'échange, à prouver par A plus B qu'il est le meilleur. Et cette posture, bah, elle demande une énergie folle et elle crée une résistance énorme chez l'acheteur.
Ouais, on se sent agressé en tant qu'acheteur.
C'est ça. En introduisant l'idée d'être simplement guidé vers la création de valeur, le diagnostic déplace complètement le centre de gravité de la conversation.
Donc, au lieu d'être dans une espèce de performance théâtrale où l'on doit prouver sa valeur, on se positionne plutôt comme un vecteur de solution.
Précisément. Et mécaniquement, ça change tout. Quand la pression de l'ego s'évapore, c'est l'écoute active qui prend le relais. Tu n'essayes plus de placer tes arguments à tout prix, tu cherches juste sincèrement à comprendre si ta solution peut régler le problème de la personne en face.
C'est marrant, ce détachement paradoxal, c'est finalement une technique de persuasion redoutable.
Ah, c'est probablement la plus puissante, oui.
Du coup, c'est fascinant parce que ça crée un pont direct vers la manière dont on choisit les gens avec qui on bosse. Si on est ce vecteur de solution, encore faut-il l'apporter aux bonnes personnes.
Et c'est là que le bât blesse souvent.
Ouais.
Le diagnostic parle d'une harmonie entre le client idéal et les offres. Mais au-delà de définir un avatar client classique, il ajoute un filtre inversé. Il exige de connaître, avec la même précision, les profils qui pourraient nuire à la croissance personnelle ou professionnelle.
Ça, c'est le principe de la sélection par la négative. Et c'est vraiment une compétence de très haut niveau.
La plupart des professionnels, surtout quand ils démarrent ou qu'ils cherchent à grossir, ils agissent depuis un espace de rareté.
Ils ont faim, quoi.
Voilà. Ils prennent n'importe quel contrat pour faire entrer de l'argent. Et cette espèce d'aveuglement volontaire face aux red flags, aux signaux d'alarme d'un prospect toxique, c'est un véritable fléau.
C'est un peu comme préparer un sol avant de planter notre fameuse petite plante du logo. On peut avoir les meilleures graines du monde, si on ne retire pas les mauvaises herbes, bah les clients toxiques, rien ne poussera sainement.
C'est une super analogie.
C'est comme essayer de faire rouler une voiture de sport avec le frein à main serré. Un client mal aligné, ça demande deux fois plus de réunions, ça chipote sur chaque étape, ça retarde les paiements, c'est une fuite massive de ressources.
Et le coût d'opportunité derrière, il est juste faramineux. Chaque heure que tu passes à gérer les angoisses d'un client toxique, c'est une heure que tu voles à l'acquisition de super clients. Ou pire, que tu voles à ceux qui te font déjà confiance.
Et c'est pour ça que ce filtre antitoxique est aussi important pour la rentabilité.
Table. Ce filtre, c'est une stratégie de préservation agressive de ta marge.
Ce qui nous amène logiquement à la mécanique pure. Une fois qu'on a nettoyé l'environnement, que l'ego est calmé, que la cible est définie, bah, comment on attire le bon profil sans s'épuiser?
Là, on rentre dans le dur.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le vocabulaire du doc change du tout au tout. Fini le sentiment d'être guidé, on entre dans l'optimisation des canaux. Et on vise un truc hyper précis, attirer de manière prédictible.
Oui, parce que la prédictibilité, c'est l'antidote à ce qu'on appelle souvent le marketing de l'espoir.
Le marketing de l'espoir.
Bah oui, l'écrasante majorité des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils publient 3 posts LinkedIn, ils vont à des soirées réseau, ils envoient des messages au pif et ils croisent les doigts très fort.
Ouais, en espérant que le téléphone sonne.
C'est ça, ils vivent dans une incertitude chronique. Construire une machine prédictible, c'est... accepter de regarder la réalité mathématique en face.
Et ça passe par des indicateurs qui font souvent très peur, genre la valeur par lead. La théorie, elle est simple. 100 personnes entrent dans ton système, ça génère 1000 euros à la fin, donc chaque personne vaut 10 euros. Mathématiquement, c'est basique. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi tant de pros, même dans le haut de gamme, refusent de calculer ou même de regarder ces chiffres?
Eh bien, parce que ça te confronte à une réalité crue qui fait mal. C'est le moment où le brouillard se lève, tu vois. Calculer ça, c'est souvent réaliser que tu investis un temps dingue pour attirer des gens qui n'achèteront jamais.
Ça fait mal à l'ego, ça.
Très mal. Mais une fois que tu passes ce cap psychologique, ça devient un vrai super pouvoir. Si tu prouves mathématiquement la valeur d'un prospect, bah, tes efforts de com, c'est plus une dépense angoissante. Ça devient un investissement rationnel.
C'est clair. C'est la différence entre claquer son salaire au casino et investir en bourse. Mais le diagnostic va encore plus loin avec l'automatisation. Il parle d'automatiser la recherche de prospects avec des prescripteurs et même la signature de contrats en ligne.
Oui, tout le process.
Et là, moi, j'ai une vraie réserve. On parle quand même d'accompagnement premium, haut de gamme. À force de vouloir tout modéliser, tout automatiser pour faire genre la machine parfaite, on risque pas de tuer l'étincelle humaine. Le prospect premium, il a pas envie d'être traité par un algorithme.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est une objection super valide. Mais c'est un paradoxe. On imagine que la tech crée un mur de glace. Mais en fait, il faut réfléchir en termes de physiologie de l'empathie.
Physiologie de l'empathie.
Notre cerveau, il a une réserve limitée de bandes passantes émotionnelles tous les jours. Si un pro passe ses matinées à trier des mails, à copier-coller des infos dans des fichiers Excel ou à filtrer au téléphone des curieux qui n'ont pas de budget,
il est cramé pour l'après-midi.
Il arrive à son appel de vente complètement vidé. Le diagnostic insiste sur l'automatisation logistique pour une raison vitale. Protéger ce réservoir émotionnel. En fait, l'ingénierie sert de bouclier à l'artisanat.
L'ingénierie qui protège l'artisanat. Waouh, c'est une image super forte. Donc ça veut dire que quand on est enfin en face du bon prospect, on a 100% de sa tête dispo pour comprendre ce mécanisme qui déclenche l'envie d'achat. On ne pense plus à la paperasse.
C'est exactement ça. Et c'est cette présence totale qui permet de modéliser ses réussites. Le doc demande s'il est possible de dupliquer ce qui marche. Tu peux le faire que si tu as l'espace mental pour observer ce qui s'est réellement passé pendant une vente réussie.
Mais d'ailleurs, le processus ne s'arrête pas là. Souvent, on se dit « contrat signé, en sabre le champagne, au suivant ». Or, la structure de ce doc prouve que ça, c'est une vision hyper court terme.
Oh que oui!
Toute la deuxième moitié bascule sur l'expérience client et la fidélisation. Et il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Il faut s'assurer d'avoir des données qui confirment que le service aide vraiment le client. Pas juste lui demander s'il est content, hein. Chercher la donnée incontestable de la transformation. Pourquoi c'est si critique, Evelyne ?
Cela soulève une question importante. La différence entre un sentiment et un fait. Ton client peut t'adorer parce que tu es sympa sans pour autant avoir eu le moindre résultat. Chercher ces données, ça a deux fonctions. La première, c'est le marketing pur. Ça te donne des témoignages en béton armé.
Ouais, pour alimenter la machine prédictible dont on parlait. Et la deuxième ?
La deuxième, elle est purement psychologique et elle boucle avec le tout début. Il n'y a rien qui détruit mieux le syndrome de l'imposteur que la preuve irréfutable que ton truc marche.
Ah, la boucle est bouclée.
C'est ça. Les données de réussite de tes clients actuels, elles viennent cimenter ta conviction d'être légitime pour tes futurs clients. C'est le remède absolu contre le doute.
C'est brillant, mais pour que cette machine tourne sans exploser en vol, il y a un petit détail d'organisation qui a l'air de rien, mais qui soulève un problème énorme. Le diagnostic demande si l'on a, je cite, « réservé une plage où chaque contact peut me joindre sans gêner mon organisation actuelle ».
Oula, le fameux talon d'Achille de la croissance.
C'est un vrai problème de frontière, ça, non ?
Majeur. Beaucoup de professionnels, par envie de bien faire ou par peur panique de perdre un client, ils deviennent corvéables à merci, ils répondent à 22h, ils lâchent un dossier complexe parce que le téléphone sonne.
Et il s'épuise. C'est le fameux frein à main qui revient.
Exactement. En croyant offrir un service premium, ils détruisent leur propre capacité à bien bosser. Imposer des cadres, c'est pas être froid, c'est être mature. C'est dire « Ok, je suis là pour vous, mais dans un cadre qui me permet de rester excellent ».
Sans ces frontières, la pérennité est juste impossible. Et la pérennité, c'est le cœur de la toute dernière section du scanner.
La partie sur l'amélioration continue ?
Ouais, mais traitée totalement à contre-courant. Après avoir parlé de trucs super durs comme la marge et les leads, le doc fait un grand écart. Il parle de savoir être connaissant des résultats obtenus, quels qu'ils soient. Et il pose des questions hyper ouvertes où il faut disséquer émotionnellement les étapes difficiles du processus de vente.
Et voilà la métaphore de la plante qui prend tout son sens. La mallette, c'était les process. La plante, c'est l'évolution du pro face à l'échec et au rejet. Parce que la vente, on va pas se mentir, c'est un métier d'usure psychologique.
Ah ça, c'est sûr.
Accepter de décortiquer ses difficultés émotionnelles sans accuser la terre entière, c'est faire preuve d'une vulnérabilité stratégique.
C'est super intéressant d'associer vulnérabilité et stratégie. D'habitude, on nous dit que la vulnérabilité, c'est une faiblesse dans le business.
C'est tout le contraire en vrai. Si un lancement foire et que tu blâmes juste l'algorithme, tu n'apprends rien. En te forçant à détailler l'inconfort et à pratiquer la gratitude même pour un échec, le doc crée de la résilience.
Il valorise le processus plutôt que le résultat immédiat, en fait. Et cette résilience, elle s'appuie aussi sur l'entourage. Le texte parle d'avoir des mentors pour aller plus vite dans les 12 mois qui viennent. Accepter qu'on n'a pas la science infuse, c'est le retour à l'humilité du départ.
Exactement. C'est un écosystème complètement intégré. Un bon vendeur peut pas être qu'un technicien des chiffres, ni juste un rêveur déconnecté de la réalité mathématique. L'efficacité redoutable, elle est dans cette tension constante.
Ouais, nettoyer ses croyances, virer les clients toxiques, utiliser les maths pour attirer des leads de façon prédictible et automatiser le paperasse pour sauver son empathie.
C'est le résumé parfait.
C'est une vraie cartographie de l'efficacité qui lie la santé mentale à la santé financière. Mais il reste un tout dernier point. Une question posée tout à la fin, comme une page blanche, un peu comme une provocation après toute cette rigueur.
La fameuse question finale.
Voilà. Le diagnostic demande, idéalement, quelle serait la situation la plus favorable pour vous? Vous avez le droit d'être créatif.
C'est la question qui vient titiller le vrai moteur de l'entrepreneur.
Complètement. Si on imagine qu'on a coché toutes les cases, plus de clients toxiques, syndrome de l'imposteur guéri, système de leads qui tourne tout seul, bah il reste quoi en fait?
C'est la question vertigineuse.
Si on enlève absolument toutes les frictions techniques et psy, à quoi ressemble vraiment notre liberté? Que révélerait cette situation de vente idéale sur notre vrai rapport au succès et à l'indépendance? C'est une pensée assez puissante que je laisse à tous ceux qui nous écoutent le soin de méditer bien après la fin de ce décryptage.